Si vous vous demandez, mais d'où vient le changement qui est en vigueur depuis un certain temps d'avoir changé les paroles du Notre Père à la fin, ben la raison, vous la trouvez dans le texte de l'Évangile que nous venons juste d'entendre. On nous présente la raison pour laquelle, depuis environ 2 ans, on vous invite à dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». En fait, l'expression « Ne nous laisse pas succomber à la tentation », elle est simplement une traduction modifiée d'une traduction littérale de la version grecque du Nouveau Testament, qui est celle qu'on utilise couramment, c'est-à-dire « Ne nous porte pas en tentation ». « Ne nous porte pas en tentation » est définitivement synonyme de « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Or, comment Dieu peut-il nous tenter? D'ailleurs, dans la lettre de Saint Jacques, nous lisons « Dieu ne tente personne ». Ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est le démon qui nous tente. Mais on peut penser que lorsque Jésus a prié cette prière, il ne l'a pas prié en grec. Donc, il vivait en Palestine et la langue de la Palestine, la langue quotidienne, c'était l'araméen. Or, il se trouve que, évidemment, dans chaque langue a sa propre logique et on explique qu'en araméen, tout comme en hébreu d'ailleurs, les conjugaisons des verbes fonctionne de manière différente que nous en français. Et sans vouloir entrer dans des concepts trop théoriques pour vous, on dit qu'il y a 2 temps de verbes que Jésus aurait pu conjuguer pour exprimer une idée bien spécifique. Et ces temps de verbes, on parle du mode factitif et du mode atténué permissif. J'en dirai pas plus parce que ce n'est pas un cours de théologie que je vais vous faire. Mais au bout du compte, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait des modifications et qu'on connaît le langage, la manière d'écrire en araméen et en hébreu, si on veut traduire ça en français, ça donnerait comme un verbe auxiliaire qui accompagnerait un verbe principal. Et le verbe principal ici serait évidemment « entrer » et le verbe auxiliaire serait « faire entrer » ou « laisser entrer » et de manière négative, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ainsi donc, on retourne au sens original du texte du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. J'aimerais tout de même ce matin aller un petit peu plus profondément, un peu plus concrètement dans ce texte que nous venons d'entendre, tiré de l'Évangile selon Saint Matthieu, donc la prière du Notre Père que le Seigneur enseigne à ses disciples. Il faut savoir que ce petit section est une incise à l'intérieur d'un autre texte. Et cet autre texte-là, c'est celui d'hier. Alors, si vous retournez à l'Évangile qu'on a entendu hier, qui est l'Évangile qu'on entend chaque année au mercredi des Cens, les œuvres du carême, la prière, l'aumône et le jeûne, alors la partie du milieu, c'est celle de la prière. Jésus dit « Priez, ne priez pas comme les pharisiens, vous retire-toi dans ta chambre. » Juste après avoir dit ça, avant de passer au jeûne, Jésus dit, « Ne rabâchez pas comme les païens, vous dites notre Père. » Alors, vous irez voir, d'ailleurs, c'est très clair dans le Priant en Église, les versets, donc on comprend que c'est une incise à l'intérieur. Et dans chacune des demandes du Notre Père, on pourrait y méditer, mais j'aimerais m'attarder sur le pain quotidien que Jésus promet. Avant ça, allons voir le texte de la première lecture. On a fait quelques sauts dans la deuxième lettre aux Corinthiens. On est à la toute fin de la deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est une partie de cette lettre dans laquelle Saint Paul décide de présenter une forte défense de sa propre personne, de son propre ministère. C'est comme une apologie personnelle. Alors, il se présente, il se défend lui-même devant les Corinthiens. Pour quelle raison? Probablement qu'il y avait des gens à Corinthe qui qui ne l'aimaient pas, des gens peut-être qui étaient venus de l'extérieur et qui avaient convaincu les Corinthiens que Paul était un usurpateur, parce que ce n'était pas la première fois que Paul se rendait à Corinthe. Et probablement que ces personnes-là étaient très, très, très habiles. On pourrait entendre 3 chapitres complets où Paul parle de lui-même, mais je vous invite demain à écouter la première lecture à la messe. Vous allez voir une section de ce texte-là. Mais celle d'aujourd'hui aussi, elle est très belle. Chapitre 11, versets 1 à 11. Et regardez la dernière parole que Paul adresse aux Corinthiens dans ce passage, lorsqu'il le dit, « Pourquoi est-ce que je me comporte ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. » Paul est en train de dire aux Corinthiens, là, comme un bon cœur de père à ses enfants, « Je vous aime. » Je trouve ça beau, moi. Et l'image du Père, elle est aussi exprimée dans les premiers versets de la lecture, avec une image qui est loin de notre réalité à nous jusqu'à un certain point, puisque Paul est en train de se comparer à il utilise une tradition qui était en usage au Moyen-Orient, c'était celle des noces, et c'était une habitude lors des noces, que le soir des noces, le meilleur ami de l'époux présente l'époux à son épouse pour la nuit des noces. Alors, c'est une tradition. Aujourd'hui, on dirait le père de la mariée. Ce serait comme ça, sauf que là, c'est en relation là, avec l'amitié. Et là, Paul se compare à cette personne-là, le terme qui est utilisé, là, paranymphe. Okay? Donc, comme l'ami de l'époux. Et pourquoi il utilise cette image-là? C'est parce qu'il se considère un peu comme le père de l'Église. Et alors, il dit aux Corinthiens, vous êtes les enfants, vous êtes la mariée, moi je suis là pour vous présenter au Seigneur. C'est ma mission. Ou pour le dire dans un langage symbolique, Paul est le gardien de la pureté de l'épouse qu'est l'Église. Entre le temps des fiançailles, et le temps où le mariage va être accompli définitivement, c'est-à-dire lors du deuxième retour glorieux du Christ. Alors, et ce temps-là, c'est le temps de l'Église. C'est le temps dans lequel nous vivons nous aussi présentement. Paul, l'apôtre Paul, est un peu notre Père qui nous présente au Christ. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où nous célébrons les sacrements. C'est le temps aussi de l'Eucharistie. Et c'est ce qui m'amène à retourner à l'Évangile, puisque Jésus dit dans la prière qu'il nous a enseignée, « Donne-nous le pain de ce jour. » Or, le terme « le pain de ce jour » ici en grec, on dit que c'est un terme très, très rare. C'est pas juste le pain là, comme ça qu'on parle, c'est un terme bien technique, spécifique, qui a une signification très profonde. C'est le pain du corps, mais on peut le comprendre comme un pain nécessaire. Une tradition qu'on pourrait faire, c'est le pain nécessaire, ou une autre manière de le dire, le pain super substantiel. Ou même une autre manière de le dire pour utiliser une image, c'est le pain du matin, pour le reste de la journée et pour le lendemain aussi. Alors imaginez, si vous avez le pain du jour qui est si substantiel que ça, c'est un pain qui est sérieux. J'ai un contact sur Facebook, il y a des gens qui veulent garder contact avec moi sur Messenger et des gens en Afrique que je n'ai jamais vus. On a créé une petite amitié virtuelle ensemble. Et ce matin, il y a un de ces types qui vit dans une pauvreté extrême. Je me sens même gêné. Il demande de l'aide, mais je ne veux pas m'embarquer. Je ne veux pas m'engager nécessairement. Mais j'aime l'entendre, l'écouter. Il dit, ce matin, je suis allé à la messe et j'ai entendu, il habite au Burundi, j'ai entendu le Seigneur me dire qu'il me donnait mon pain quotidien. Moi, qui n'ai pas à manger, qui manque de tout, ça m'a fait du bien. Alors imaginez, le Seigneur nous adresse la même parole à nous qui avons de la nourriture plus qu'on en a besoin, mais c'est un pain super substantiel, un pain pour l'éternité. Alors, je vous invite ce matin à tous célébrer les merveilles que le Seigneur nous offre, les merveilles au quotidien, sa bonté, son amour, le pain de l'Eucharistie, et de pouvoir les chanter, ces merveilles. D'ailleurs, on l'a prié dans le psaume, la deuxième strophe du psaume. De ces merveilles, le Seigneur a laissé un mémorial, car il est tendresse et pitié. Amen.